Dans ma petite ville de moins de 5000 habitants, au cœur de la France,
Romain Rolland.
Clamecy, en Nivernais, quand je suis né, les bourgeois bornaient leur horizon aux limites de leur département. Des pays étrangers, on ne savait quasi rien. Je ne semblais donc en rien prédestiné à devenir ce que je suis essentiellement, un citoyen du monde, ou pour parler plus exactement, un travailleur du monde.
Ça peut pas faire de mal.
La clé de l'unité humaine m'a été donnée à mon berceau par une bonne fée maternelle, la musique. Sans avoir encore la moindre connaissance de l'Allemagne et de l'Italie, où je ne suis allé pour la première fois qu'après 20 ans, je communiais, enfant, avec les meilleurs de ces deux peuples par le sentiment.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
La vie passe. Le corps et l'âme s'écoulent comme un flot. Les ans s'inscrivent sur la chair de l'arbre qui vieillit. Le monde entier s'use et se renouvelle. Toi seul ne passes pas, immortelle musique. Tu es la mer intérieure, tu es l'âme profonde. Au loin de toi s'enfuit, troupeau de nuées, les jours brûlants, glacés, fiévreux, que l'inquiétude chasse, que jamais rien ne fixe. Toi seul ne passes pas. Tu es en dehors du monde. Tu es un monde à toi seul. Tu as ton soleil qui mène ta ronde des planètes, ta gravitation, tes nombres et tes lois. Tu as la paix des étoiles qui tracent dans le champ des espaces nocturnes leurs sillons lumineux. Musique, amie sereine, ta lumière lunaire est douce aux yeux fatigués par le brutal éclat du soleil d'ici-bas. Musique, vierge mère qui porte en ton corps immaculé toutes les passions, qui contient dans le lac de tes yeux couleur de jonc, couleur de l'eau vert pâle qui coule des glaciers, tout le bien, tout le mal. Tu es par-delà le mal, tu es par-delà le bien, qui, chez toi, fait son nid, vit en dehors des siècles. La suite de ces jours ne sera qu'un seul jour, et la mort, qui tout mord, s'y brisera les dents. Musique qui berça mon âme endolorie, musique qui me l'a rendue calme, ferme et joyeuse, mon amour et mon bien, je baise ta bouche pure, dans tes cheveux de miel je cache mon visage, j'appuie mes paupières qui brûlent sur la paume douce de tes mains, nous nous taisons, nos yeux sont clos, et je vois la lumière ineffable de tes yeux, et je bois le sourire de ta bouche muette. Et blotti sur ton cœur, j'écoute le battement de la vie éternelle.
Cet éloge de la musique est né de la plume d'un mélomane, l'écrivain Romain Rolland, qui signe en 1915 l'un de ses chefs-d'œuvre, Jean-Christophe. Ce grand roman de la fraternité voit son auteur récompensé l'année suivante par le prix Nobel de littérature. Mais la prestigieuse distinction n'épargne pas Romain Rolland du scandale. Depuis le début de la Première Guerre mondiale, il est accusé de trahison pour ses idées pacifistes. Son célèbre article « Au-dessus de la mêlée », où il invite la jeunesse héroïque à vaincre la haine, lui vaut des injures de la part de ses compatriotes. Exilé en Suisse, l'écrivain profondément humaniste défend depuis toujours l'amitié entre les peuples. C'est en 1890, à l'âge de 24 ans, que le jeune agrégé d'histoire ébauche l'idée d'un roman d'apprentissage qui s'inspire de la vie de Beethoven et qui rend hommage à son maître en littérature, Goethe. Il lui faudra 10 ans pour venir à bout de ce vaste projet, commencé en 1901, achevé en 1912. Visionnaire, l'écrivain signe une œuvre prophétique qui annonce la boucherie de 14-18. « J'ai écrit la tragédie d'une génération qui va disparaître », écrit-il à la dernière page de son roman, 2 ans avant la guerre. Ce soir, je vous invite à parcourir cette œuvre magistrale au ton mélancolique qui témoigne d'un monde disparu, celui d'avant la Grande Guerre, où l'art classique n'a pas encore cédé la place à l'ère moderne des machines. Découvrons la vie romantique et romanesque de Jean-Christophe Kraft, un jeune compositeur allemand au génie capricieux, né sur les rives du Rhin et amoureux inconditionnel de la culture française. Et pour m'accompagner dans cette épopée d'un Européen avant l'heure, j'ai le grand plaisir d'accueillir un camarade de la Comédie Française, un immense comédien, au talent de magicien, Hervé Pierre. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Guillaume.
Merci de nous faire partager ce grand classique de la littérature qui fait partie, je crois, des grands éblouissements de votre enfance. Ouvrons ce texte qui vous a donné l'amour des mots et le désir de devenir comédien. Commençons justement par l'enfance de notre héros. Né à la fin du 19e siècle dans une famille de musiciens pauvres, Jean-Christophe, que l'on appelle tout simplement Christophe, grandit dans une modeste maison, dans la campagne rhénane. Dès l'âge le plus tendre, il est bercé par les bruits réguliers de la nature environnante. C'est comme une symphonie pastorale, avec ses tempo forte et ses notes pianissimo, une symphonie universelle où se mêlent le présent et le passé. Le fleuve, les cloches, si loin qu'ils se souviennent, dans les lointains du temps, à quelque heure de sa vie que ce soit, toujours les voix profondes et familières chantent. La nuit, à demi endormie, une pâle lueur blanchit la vitre, le fleuve gronde. Dans le silence, sa voix monte toute puissante, elle règne sur les êtres. Tantôt elle caresse leur sommeil et semble près de s'assoupir elle-même au bruissement de ses flots. Tantôt elle s'irrite, elle hurle comme une bête enragée qui veut mordre. La vocifération s'apaise, c'est maintenant un murmure d'une infinie douceur. Des timbres argentins, de claires clochettes, des rires d'enfants, de tendres voix qui chantent, une musique qui danse. Grande voix maternelle qui ne s'endort jamais. Elle berce l'enfant, ainsi qu'elle berça pendant des siècles, de la naissance à la mort, les générations qui furent avant lui. Elle pénètre sa pensée, elle imprègne ses rêves, elle l'entoure du manteau de ses fluides harmonies qui l'envelopperont encore, quand il sera couché dans le petit cimetière qui dort au bord de l'eau et que baigne le Rhin. Les cloches, voici l'aube. Elles se répondent, dolentes, un peu tristes, amicales, tranquilles. Au son de leur voix lente, montent des essaims de rêves, rêves du passé, désirs, espoirs, regrets des êtres disparus, que l'enfant ne connut point et que pourtant il fut, puisqu'il fut en eux. Puisqu'ils revivent en lui. Des siècles de souvenirs vibrent dans cette musique. Tant de deuils, tant de fêtes. Et au fond de la chambre, il semble, en les entendant, qu'on voit passer les belles ondes sonores qui coulent dans l'air léger, les libres oiseaux et le tiède souffle du vent. Tout est musique pour un cœur musicien. Tout ce qui vibre et s'agite et palpite, les jours d'été ensoleillés, les nuits où le vent siffle, la lumière qui coule, le scintillement des astres, les orages, les chants des oiseaux, les bourdonnements d'insectes, les frémissements des arbres, les voix aimées ou détestées, les bruits familiers du foyer, de la porte qui grince, du sang qui gonfle les artères dans le silence de la nuit, tout ce qui est musique. Il ne s'agit que de l'entendre. Toute cette musique des êtres résonnait en Christophe. Tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il sentait, se muait en musique. Il était comme une ruche bourdonnante d'abeilles. Restons en compagnie de notre jeune héros. Nous sommes toujours à la première partie du roman intitulée « L'aube ». La scène que vous allez nous lire, cher Hervé Pierre, est aussi une scène fondatrice de votre propre enfance. Souvenez-vous, vous avez 9 ans, vous êtes en classe de CM2, dans un petit village franc-comtois, à quelques centaines de kilomètres de la ville natale de Romain Rolland. Votre instituteur vous lit ce passage inoubliable, où le jeune garçon part à la conquête du monde. Pour vous, c'est la découverte d'un autre univers, celui de la littérature, et son pouvoir fabuleux d'inscrire le rêve dans la réalité. À vous.
Il est à la maison, assis par terre, les pieds dans ses mains. Il vient de décider que le paillasson était un bateau, le carreau une rivière. Il croirait se noyer en sortant du tapis. Il est surpris et un peu contrarié que les autres n'y fassent pas attention en passant dans la chambre. Il arrête sa mère par le pan de sa jupe. « Tu vois bien que c'est de l'eau, il faut passer par le pont. » Le pont est une suite de rainures entre les losanges rouges. Sa mère passe sans même l'écouter. Il est vexé, à la façon d'un auteur dramatique qui voit le public causer pendant sa pièce. L'instant d'après, il n'y songe plus. Le carreau n'est plus la mère. Il est couché dessus, étendu de tout son long, le menton sur la pierre, chantonnant des musiques de sa composition, et se suçant le pouce gravement, en bavant. Il est plongé dans la contemplation d'une fissure entre les dalles. Les lignes des losanges grimacent comme des visages. Le trou imperceptible grandit, il devient une vallée. Il y a des montagnes autour. Un mille pattes remuent, il est gros comme un éléphant. Le tonnerre pourrait tomber, l'enfant ne l'entendrait pas. Personne ne s'occupe de lui, il n'a besoin de personne. Il peut même se passer de bateaux paillassons et des cavernes du carreau avec leur faune fantastique. Son corps lui suffit. Quelle source d'amusement! Il passe des heures à regarder ses ongles en riant aux éclats. Ils ont tous des physionomies différentes, ils ressemblent à des gens qu'il connaît. Il les fait causer ensemble et danser ou même se battre. Et le reste du corps, il continue l'inspection de ce qui lui appartient. Que de choses étonnantes! Il y en a de bien étranges. Il s'absorbe curieusement dans leur vue. Il fut rudement attrapé parfois quand on le surprit ainsi.
Laissons passer le temps et retrouvons Christophe à l'âge des premiers émois. À 11 ans, le jeune prodige donne des cours de musique afin de subvenir aux besoins de sa famille. Après le décès de son grand-père, Jean-Michel, avec qui il partageait le secret de ses premières compositions, Christophe trouve réconfort auprès d'une riche voisine, Madame de Kerich, et de sa fille, Mina, à qui il enseigne le piano. Le garçon prend peu à peu ses habitudes dans la maison et passe des après-midi entiers dans la bibliothèque familiale à se former aux grands auteurs, Shakespeare, Schiller, Goethe, mais aussi Jules Verne, Montaigne. Ces instants précieux resteront gravés dans sa mémoire. Pour l'heure, séduit par la compagnie des femmes, mais novice en matière de sentiments, Christophe ne sait s'il est amoureux de la mère ou de la fille. Ingrat, il en vient même à mépriser Mina. Jusqu'au jour où... Voici un extrait de la deuxième partie du roman intitulé « Le matin ». Un jour vint. Il avait plu toute la matinée et une partie de l'après-midi. Christophe et Mina étaient restés enfermés dans la maison sans se parler, à lire, bâiller, regarder par la fenêtre. Ils étaient ennuyés et maussades. Vers 4 heures, le ciel s'éclaircit. Ils coururent au jardin. Ils s'accoudèrent à la terrasse, contemplant au-dessous d'eux les pentes de gazon qui descendaient vers le fleuve. Des gouttelettes de pluie étincelaient sur l'herbe. L'odeur de la terre mouillée et le parfum des fleurs se mêlaient. Autour d'eux bruissait le vol doré des abeilles. Ils étaient côte à côte et ne se regardaient pas. Ils ne pouvaient se résoudre à rompre le silence. Une abeille vint gauchement s'accrocher à une grappe de glycine lourde de pluie et fit basculer sur elle une cataracte d'eau. Ils rirent en même temps. Et aussitôt, ils sentirent qu'ils ne se boudaient plus, qu'ils étaient bons amis. Pourtant, ils continuaient à ne pas se regarder. Brusquement, sans tourner la tête, elle lui prit la main et elle lui dit « Venez ». Elle l'entraîna en courant vers le petit labyrinthe boisé, au sentier bordé de buis qui s'élevait au centre du bosquet. Ils escaladèrent la pente, ils glissaient sur le sol détrempé et les arbres mouillés secouaient sur leurs branches. Près d'arriver au faîte, elle s'arrêta pour respirer. « Attendez, attendez !» dit-elle tout bas, tâchant de reprendre haleine. Il la regarda, elle souriait, haletante, la bouche entrouverte. Sa main était crispée dans la main de Christophe. Ils sentaient leur sang battre dans leurs paumes pressées et leurs doigts qui tremblaient. Autour d'eux, le silence. Les pousses blondes des arbres frissonnaient au soleil. Une petite pluie s'égouttait des feuilles avec un bruit argentin et dans le ciel passaient les cris aigus des hirondelles. Elle retourna la tête vers lui, ce fut un éclair. Elle se jeta à son cou, il se jeta dans ses bras. « Mina, Mina chérie, je t'aime Christophe, je t'aime. » Ils s'assirent sur un banc de bois mouillé. Ils étaient pénétrés d'amour, un amour doux, profond, absurde. Tout le reste avait disparu. Plus d'égoïsme, plus de vanité, plus d'arrière-pensée. Toutes les ombres de l'âme étaient balayées par ce souffle d'amour. Aimer, Aimé, disaient leurs yeux riants et humides de larmes. Cette froide et coquette petite fille, ce garçon orgueilleux, était dévoré du besoin de se donner, de souffrir, de mourir l'un pour l'autre. Ils ne se reconnaissaient plus, ils n'étaient plus eux-mêmes. Tout était transformé, leur cœur, leurs traits, leurs yeux rayonnaient d'une bonté et d'une tendresse touchantes. Minutes de pureté, d'abnégation, de don absolu de soi, qui ne reviendront plus jamais dans la vie. Après un balbutiement éperdu, après des promesses passionnées d'être l'un à l'autre toujours, après des baisers et des mots incohérents et ravis, ils s'aperçurent qu'il était tard, et ils revinrent en courant, se tenant par la main, au risque de tomber dans les allées étroites, se heurtant aux arbres, ne sentant rien, aveugles et ivres de joie. Lorsqu'il l'eut quitté, il ne rentra pas chez lui. Il se promena au hasard, dans la nuit. Il allait comme un somnambule. Il monta la colline au milieu des vignes. Les petites lumières de la ville tremblaient dans la plaine et les étoiles dans le ciel sombre. Il s'assit sur un mur du chemin et fut pris brusquement d'une crise de larmes. Il ne savait pourquoi. Il était trop heureux et l'excès de sa joie était fait de tristesse et de joie. Il s'y mêlait de la reconnaissance pour son bonheur, de la pitié pour ceux qui n'étaient pas heureux, un sentiment mélancolique et doux de la fragilité des choses, l'enivrement de vivre. Il pleura avec délice. Il s'endormit au milieu de ses pleurs. Quand il se réveilla, l'aube était incertaine. Les brouillards blancs traînaient sur le fleuve et enveloppaient la ville où Mina dormait, écrasée de fatigue, le cœur illuminé par un rire de bonheur.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Le bonheur est inséparable de la mélancolie, le génie artistique est souvent frère de l'orgueil. Retrouvons Christophe au moment où il rêve de gloire. Au cours de son adolescence, le garçon traverse bien des épreuves. Le décès de son père, Melchior, puis le décès de Sabine, un autre grand amour de jeunesse. À bientôt 20 ans, installé en ville, notre jeune homme s'encanaille. Il fréquente une actrice française, s'essaie au journalisme, critique ouvertement l'œuvre de Brahms, s'attire les foudres du grand-duc et tente de percer par sa propre musique. Enfin, l'une de ses compositions est retenue pour une audition publique par l'orchestre municipal. Pour le génie en herbe, sûr de réformer la musique allemande, un autre grand jour arrive. Voici un extrait de la quatrième partie du roman intitulé « La révolte ». Dans le passage suivant, passant du rire aux larmes, Christophe découvre les émotions contradictoires que l'on peut ressentir dans une salle de spectacle.
À son arrivée, il fut surpris de voir qu'à cette répétition fermée, la salle, du moins les places du bas, était presque entièrement remplie. Une foule de dilettantes, d'oisifs et de critiques s'agitait en caquetant. L'orchestre était censé ignorer sa présence. On commença par la rhapsodie de Brahms, pour voix d'alto, chœur d'homme et orchestre. Christophe, qui détestait la sentimentalité joyeuse de cette œuvre, pensa que c'était, après tout, de bonne guerre. À défaut de la musique, il apprécia la farce. Il s'amusa même à mêler ses applaudissements ironiques à ceux du public, qui fit pour Brahms une manifestation enthousiaste. Enfin, ce fut le tour de la symphonie de Christophe. Quelques regards jetés de l'orchestre et de la salle dans la direction de sa loge lui firent voir qu'on était averti de sa présence. Il se dissimula. Il attendait, avec ce serrement de cœur que tout musicien éprouve au moment où la baguette du chef se lève et où le fleuve de musique se ramasse en silence, prêt à briser sa digue. Jamais il n'avait encore entendu son œuvre à l'orchestre. Comment les êtres qu'il avait rêvés allaient-ils vivre? Quelle serait leur voix? Il les sentait gronder en lui, et penché sur le gouffre des sons, il attendait en frémissant ce qui allait sortir. Ce qui sortit, ce fut une chose sans nom, une bouillie informe. Au lieu des robustes colonnes qui devaient soutenir le fronton de l'édifice, les accords s'écroulaient les uns à côté des autres comme une bâtisse en ruine. On n'y distinguait rien qu'une poussière de plâtras. Christophe hésita avant d'être bien sûr que c'était lui qu'on jouait. Il recherchait la ligne, le rythme de sa pensée. Il ne la reconnaissait plus. Elle allait bredouillante et titubante comme un ivrogne qui s'accroche au mur. Et il était écrasé de honte. Les instruments ne jouaient même plus ensemble. Le corps avait manqué son entrée et pris une mesure de retard. Certains traits des hautbois avaient totalement disparu. Des fantaisies d'instrumentation, des saillies humoristiques devinrent grotesques par le fait de la grossièreté de l'exécution. C'était bête à pleurer. C'était l'œuvre d'un idiot, d'un farceur qui ne savait pas la musique. Christophe s'arrachait les cheveux. Il voulut interrompre le chef d'orchestre, cet interprète imbécile, qui dénaturait son œuvre. Mais l'ami qui l'accompagnait l'en dissuada et l'obligea à se retirer au fond de la loge. Christophe se laissa faire, mais il se cognait la tête avec ses poings et chaque monstruosité nouvelle lui arrachait un râle d'indignation et de douleur. « les misérables !» gémissait-il, et il se mordait les mains pour ne pas crier. Maintenant montait vers lui, avec les fausses notes, la rumeur du public qui commençait à s'agiter. Ce ne fut d'abord qu'un frémissement, mais bientôt Christophe n'eut plus de doute. Il riait. Les musiciens de l'orchestre avaient donné le signal. Certains ne cachaient point leur hilarité. Le public assurait dès lors que l'œuvre était risible, se tordit de rire. La joie fut générale. Elle redoublait au retour d'un motif très rythmé que les contrebasses accentuaient d'une façon burlesque. Enfin, on arriva au bout. Les meilleures choses ont une fin. La parole était au public. Il éclata. Ce fut une explosion d'allégresse qui dura plusieurs minutes. Les uns sifflaient, les autres applaudissaient ironiquement. Les plus spirituels criaient « Bis !» Une voix de basse se mit à imiter le motif grotesque. D'autres farceurs furent pris d'émulation et l'imitèrent à leur tour. Quelqu'un cria « L'auteur !» Il y avait bien longtemps que ces gens d'esprit ne s'étaient pas autant amusés.
Désespéré, Christophe est en proie à la plus grande amertume. Mais bientôt, un autre spectacle lui redonne foi en ses convictions les plus profondes. Éreinté par les critiques, lassé des mondanités, Christophe décide de quitter son pays natal pour d'autres rives qu'il espère plus accueillantes. Le voici à Paris, où il se heurte au mépris de la population pour les Allemands, vainqueur de la guerre de 1870. Il renoue avec un ancien camarade, Sylvain Cohn, qui l'introduit dans le milieu artistique. Là, il fait la connaissance d'un critique musical, Théophile Goujard, qui lui fait découvrir les scènes parisiennes. Déconcerté, Christophe compare l'art français à l'art allemand. Nous sommes à la cinquième partie du roman, La foire sur la place. Dans l'extrait suivant, Romain Rolland se fait critique à son tour et nous livre son analyse d'une célèbre œuvre de Maurice Maeterlinck, dramaturge belge très en vogue à l'époque. À travers les propos de Christophe, il fustige les défauts de chaque culture. Trop d'esthétisme vide chez les francophones, trop de force brutale chez les Allemands. Visionnaire, l'écrivain prophétise aussi, au passage, l'invasion de la Belgique par l'Allemagne, événement déclencheur de la Première Guerre mondiale. Théophile Goujard et Sylvain Cohn emmenèrent Christophe à l'Opéra Comique pour entendre Péléas et Mélisandre. Ils étaient tout glorieux de lui montrer cette œuvre. On eût dit qu'ils l'avaient faite. Il laissait entendre à Christophe qu'il allait trouver là son chemin de Damas. Après le premier acte, il se pencha vers Sylvain Cohn, qui lui demandait les yeux brillants.
« Eh bien, mon petit lapin, qu'est-ce que vous en dites ?»«
Mais il n'y a rien. Rien du tout, » dit Christophe. « Pas de musique, pas de développement. Cela ne se tient pas. Des petits effets d'orchestre, mais ce n'est rien, rien du tout. » Cohn se récria et le traita de philistin. Christophe se remit à écouter. Peu à peu, la lanterne s'éclairait. Il commençait à apercevoir quelque chose dans le demi-jour. Oui, il comprenait bien qu'il y avait là un parti pris de sobriété contre l'idéal wagnérien qui engloutissait le drame sous les flots de la musique. Mais il sentait dans l'œuvre la peur de la peine, le renoncement par indolence au rude effort que réclament les puissantes constructions wagnériennes. Surtout, l'ensemble du drame, le poème, l'agaçait. Il croyait voir une Parisienne sur le retour, qui jouait l'enfant et se faisait raconter des contes de fées. Ce n'était plus le gnangnan du Rhin, mais le gnangnan franco-belge ne valait pas mieux avec ses minauderies et ses bêtasseries de salon. Les âmes parisiennes se miraient dans cette pièce qui leur renvoyait comme un tableau flatteur l'image de leur fatalisme alangui, de leur nirvana de boudoir, de leur moelleuse mélancolie. De volonté, aucune trace. Nul ne savait ce qu'il faisait. « Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma faute », gémissaient ses grands-enfants, tout au long des cinq actes qui se déroulaient dans un crépuscule perpétuel, forêt, caverne, souterrain, chambre mortuaire. Des petits oiseaux des îles se débattaient à peine. Pauvres petits oiseaux, jolis, tièdes et fins. Quelle peur ils avaient de la lumière, trop vive, de la brutalité des gestes, des mots, des passions de la vie. La vie n'est pas raffinée, la vie ne se prend pas avec des gants. À la sortie de la représentation, le débat s'envenima. Sylvain Cohn répétait avec complaisance
« Français et Belges, nous sommes des artistes. Nous faisons de l'art pour l'art. L'art est toujours pur. »
« Vous êtes des hypocrites, » protesta Christophe. « Pardonnez-moi de vous le dire. Je croyais jusqu'ici qu'il n'y avait que mon pays qui l'était. En Allemagne, nous avons l'hypocrisie de parler toujours d'idéalisme en ne pensant qu'à servir l'intérêt allemand. À présent qu'on l'a emporté, on n'a pas assez de mépris pour les utopies à la française. La paix universelle, la fraternité, le progrès, les droits de l'homme, etc. Désormais, la force est devenue sainte. La force est devenue tout idéalisme et toute intelligence. Cette victoire allemande est une abdication, une dégradation de l'idéal allemand. Hélas, comme le disait Madame de Staël, ce qui caractérise l'allemand, c'est l'obéissance, le respect pour la force. Mais vous êtes bien pire. Vous couvrez du nom d'art et de beauté votre luxure nationale, l'art pour l'art. Mais l'art, c'est la foi des forts. L'art, c'est étreindre la vie comme l'aigle sa proie. Pour cela, il faut des serres, des vastes ailes et un cœur puissant. Mais vous n'êtes que des moineaux qui se disputent en piaillant. L'art est une jouissance, certes, et de toutes la plus enivrante, mais elle est le prix d'une lutte acharnée et son laurier couronne la victoire de la force. L'art est la vie domptée, l'empereur de la vie. Vous n'êtes que des rois de théâtre. C'est un rôle que vous jouez, vous n'y croyez même pas. Et comme ces acteurs qui se font gloire de leur difformité, vous faites de la littérature avec les vôtres. Vous cultivez amoureusement les maladies de votre peuple, son amour du plaisir, l'humanitarisme chimérique, tout ce qui engourdit la volonté. Vous savez bien, mais vous ne dites point, la mort est au bout. Eh bien moi je dis, où est la mort, l'art n'est point. L'art c'est ce qui fait vivre. L'art c'est la fureur de vivre. Mais c'est à Paris que Christophe va enfin faire une rencontre décisive. C'est le grand sujet du roman, l'amitié franco-allemande. Si Christophe incarne la fureur de vivre, qui n'est jamais loin de la fureur de vaincre, il fait bientôt la connaissance de celui qui va incarner les valeurs de paix et de tolérance. Il s'agit d'Olivier, un Français aux idées pacifistes et humanistes. Cet homme sensible, capable de dépasser les préjugés et la haine, n'est autre que le double de Romain Rolland. Les deux jeunes hommes décident de vivre ensemble, d'abord à Paris, puis à la campagne, où Christophe découvre les vertus du peuple français. De loin, ils suivent les événements politiques et les crises qui bouleversent l'opinion publique. L'affaire Dreyfus, la séparation de l'Église et de l'État, puis, vers 1908, les tensions diplomatiques de part et d'autre du Rhin. Nous voici à la septième partie du roman intitulée « Dans la maison ». Pour décrire le couple franco-allemand idéal, Romain Rolland s'inspire ici de la célèbre formule de Montaigne « Parce qu'il était lui, parce que c'était moi ».
Leur amitié était un bienfait pour tous les deux. Ils s'enrichissaient l'un de l'autre. Olivier avait la sincérité de l'esprit et le corps maladif. Christophe avait une puissante force et une âme tumultueuse. C'était l'aveugle et le paralytique. Maintenant qu'ils étaient ensemble, ils se sentaient bien riches. À l'ombre de Christophe, Olivier reprenait goût à la lumière. Christophe lui transfusait un peu de son abondante vitalité, de sa robustesse physique et morale. Christophe se nourrissait de la pensée d'Olivier. Il s'imprégnait de son calme intellectuel, de son détachement d'esprit, de cette vue lointaine des choses qui comprenaient et dominaient en silence. Ils s'émerveillaient de ce qu'ils découvraient l'un dans l'autre. Chacun apportait des richesses immenses, le trésor moral de son peuple. Olivier, la vaste culture et le génie psychologique de la France. Christophe, la musique intérieure de l'Allemagne et son intuition de la nature. Mais à la suite d'événements insignifiants en apparence, les relations entre la France et l'Allemagne s'étaient brusquement aigries. En 3 jours, on en vint des rapports de bon voisinage au ton provoquant qui précède la guerre. On reconnaissait là l'orgueilleuse démence de l'impérialisme allemand sous de ses victoires et l'incapacité totale de ses hommes d'État à comprendre les autres peuples en leur appliquant à tous la même commune mesure qui fait loi pour eux, la force, raison suprême. « Je ne veux pas haïr, » disait Olivier, « je veux rendre justice même à mes ennemis. » Je veux garder au milieu des passions la lucidité de mon regard, comprendre tout et tout aimer. Mais Christophe ne partageait pas le tranquille fatalisme d'Olivier. Le spectacle de la France cachée achevait de bouleverser toutes ses idées sur le caractère français. Au lieu d'un peuple insouciant, il voyait des esprits concentrés, enveloppés d'une apparence d'optimisme comme d'une bouée lumineuse, des âmes inébranlables. Christophe se demandait où le peuple avait puisé ce stoïcisme et cette foi. Olivier lui répondit « Dans la défaite de 1870, c'est vous, mon bon Christophe, qui nous avez forgés. Ah, ça n'a pas été sans douleur. Vous ne vous doutez pas de la sombre atmosphère où nous avons grandi, dans une France humiliée et meurtrie qui venait de voir la mort. Songe à ces petits Français, nés dans des maisons en deuil. Dès le premier jour, ils ont su que leur route n'avait rien de commun avec celle du bonheur et que, pourtant, on n'a pas le choix. Il faut la suivre. Il faut faire son devoir. Vivre en homme. » Christophe serra en silence la main d'Olivier. « Cher Christophe, continua Olivier, ton Allemagne nous a fait bien souffrir. » Et Christophe s'excusait presque, comme s'il en était cause. « Ne t'afflige pas, dit Olivier en souriant. Le bien qu'elle nous a fait est plus grand que le mal. C'est vous qui avez fait reflamber notre idéalisme. C'est vous qui avez fait couvrir d'école notre France. C'est vous qui avez fait renaître notre poésie, notre peinture, notre musique. C'est à vous que nous devons le réveil de la conscience. » Christophe regarda le chétif Olivier, dont les regards brillaient de foi.
« Pauvre petit Français débile, vous êtes plus fort que nous. »
« Oh, bonne défaite !» répétait Olivier, « béni soit le désastre. Nous ne le renierons pas. Nous sommes ses enfants.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus, et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, les emporta. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille, qui n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, un qui de partout me fait la guerre, au temps d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mis à honte, en quelle manière. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus, et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est morte. Le mal ne s'est pas seul venu. Tout ce qui m'était à venir m'est avenu. Ces pauvres mémoires, m'a Dieu donné le roi de gloire, et pauvre rente, et droit au cul qu'en bise vente, le vent me vient, le vent m'évente, l'amour est morte. Ce sont amis que vent emporte. Et il vantait devant ma porte, les emporta. L'espérance de lendemain, ce sont mes fêtes.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Mais le bonheur n'a qu'un temps et le destin sépare les deux amis. De nombreuses femmes traversent la vie de nos deux jeunes gens. Un beau jour, Olivier vit l'amour passer et il le prie, comme l'écrit si bien Romain Rolland. Olivier donc se marie avec une certaine Jacqueline et s'installe en ménage à la campagne. De son côté, Christophe revient vivre à Paris où il se remet à composer. Il voit bientôt son talent reconnu à sa juste valeur, mais le destin à nouveau bouleverse le cours des choses. Délaissé par sa femme infidèle, père d'un petit garçon, Olivier revient vivre un temps avec Christophe. Mais les affaires de cœur finissent par éloigner les deux hommes. Souvent, Christophe quitte la France et séjourne dans sa ville natale, sur les bords du Rhin, où les souvenirs d'enfance atténuent un temps son sentiment de solitude. Mais certaines rencontres lui apportent une désillusion amère, comme celle de la jolie Mina, souvenez-vous, la jeune fille qui lui avait donné son premier baiser. Elle est désormais mariée à un bourgeois. De retour à Paris, Christophe traîne son ennui dans les salons mondains où il est accueilli comme un grand artiste. Un soir, une grande émotion l'attend. Nous voici à la 8e partie du roman, intitulée « Les amis ». Christophe n'avait pu se dispenser de venir encore à une soirée de l'ambassade d'Autriche. L'une de ses admiratrices, Philomène, y chantait les Lieder de Schubert et ceux de Christophe. Elle était heureuse du succès de son ami, maintenant fêté par l'élite. Même dans le grand public, le nom de Christophe s'imposait. Ses œuvres étaient jouées au concert, il avait une pièce reçue à l'Opéra Comique. Christophe était distrait par d'autres préoccupations. Il pensait à Olivier, il pensait à son fils, il pensait à Jacqueline, qui était partie à l'étranger refaire sa vie. Le grand malheur des femmes d'aujourd'hui, c'est qu'elles sont trop libres, ou pas assez. Obsédé par ses pensées, Christophe évitait le monde. Il s'était retiré dans un petit salon à l'écart. Adossé au mur, dans un retrait à demi dans l'ombre, derrière un rideau de plantes vertes et de fleurs, il écoutait la belle voix de Philomène, élégiade et chaude, qui chantait le tilleul de Schubert.
Ambrumen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum.
Et la pure musique faisait monter la mélancolie de ses souvenirs. En face de lui, au mur, une grande glace reflétait les lumières et la vie du salon voisin. Il ne la voyait pas, il regardait en lui. Et il avait devant les yeux un brouillard de larmes. Soudain, comme le vieil arbre de Schubert qui frissonne, il se mit à trembler, sans raison. Il resta quelques secondes ainsi, très pâle, sans bouger. Puis le voile de ses yeux se dissipant, il vit devant lui, dans la glace, l'ami qui le regardait. L'ami, qui était-elle? Il ne savait rien de plus, sinon qu'elle était l'ami et qu'il la connaissait. Et les yeux attachés à ses yeux, appuyés contre le mur, il continuait de trembler. Elle souriait. Il ne voyait ni le dessin de son visage et de son corps, ni la nuance de ses yeux, ni si elle était grande ou petite et comment elle était habillée. Il ne voyait qu'une seule chose, la divine bonté de son sourire compatissant. Et ce sourire subitement évoqua en Christophe un souvenir disparu de sa petite enfance. Il avait 6 à 7 ans, il était à l'école, il était malheureux. Il venait d'être humilié et battu par des camarades plus âgés et plus forts. Tous se moquaient de lui et le maître l'avait injustement puni. Accroupi dans un coin, délaissé, tandis que les autres jouaient, il pleurait tout bas. Une petite fille mélancolique qui ne jouait pas avec les autres, il la revoyait en ce moment. Lui qui n'y avait jamais pensé depuis. Elle avait les cheveux et les cils d'un blond tout à fait blanc. Les yeux d'un bleu très pâle, les joues larges et blêmes, les lèvres gonflées et des petites mains rouges. Elle était venue près de lui, elle s'était arrêtée, son pouce dans sa bouche. Elle avait regardé pleurer, puis elle avait dit timidement, précipitamment, avec le même sourire compatissant, « Ne pleure pas !» Alors Christophe n'y avait plus tenu, il avait éclaté en sanglots, appuyant son nez contre le tablier de la petite qui répétait d'une voix tremblante et tendre, « Ne pleure pas !» Elle était morte quelques semaines après. Quand avait eu lieu cette scène, elle devait être déjà sous la main de la mort. Pourquoi pensait-il à elle en ce moment ? Il n'y avait aucun rapport entre cette petite morte oubliée, humble fillette du peuple en une lointaine ville allemande, et l'aristocratique jeune dame qu'il regardait maintenant. Mais il n'est qu'une seule âme pour tous. Et bien que les millions d'êtres semblent différents entre eux, comme les mondes qui roulent dans le ciel, c'est le même éclair d'amour qui resplendit à la fois dans les cœurs séparés par les siècles. Christophe venait de retrouver la lueur qu'il avait vue passer sur les lèvres de la petite consolatrice. Cela ne dura qu'une seconde. Un flot de monde bloqua la porte et cacha à Christophe la vue de l'autre salon. Il voulut la revoir. Il avait peur que la jeune femme ne fût partie. Il entra dans le salon et au milieu de la foule, il la retrouva aussitôt. Quoiqu'elle ne fût plus la même qu'elle était apparue dans la glace. Alors elle leva les yeux, le vit et ne fut pas étonnée. Et il vit que son sourire était pour lui. Il la salua, ému, et s'approcha d'elle. « Vous ne me reconnaissez pas ?» dit-elle. À cet instant, il la reconnit. « Grazia, » dit-il. Au même moment, l'ambassadrice qui passait présenta Christophe à la comtesse Bérény. Mais Christophe était si ému qu'il n'entendait même pas. Il ne remarquait point ce nom étranger. C'était toujours pour lui la petite Grazia, la petite Italienne qu'il aimait en secret à ses débuts à Paris, quand lui-même n'avait d'yeux que pour l'intrigante Colette Stevens. Nous voici parvenus à la fin de notre épopée. La réapparition de Grazia dans sa vie apaise les vieux jours de Christophe. Des années plus tard, alors que le vide s'est fait autour de lui, Olivier et Grazia, emportés par la mort, le vieil homme s'apprête lui aussi à quitter la vie. Le compositeur de génie emporte avec lui tout un monde désormais disparu, le monde d'hier, dirait Stéphane Zweig, le monde d'avant la Grande Guerre où la France et l'Allemagne se disputaient l'excellence de leur art. Prophétique, le récit de Romain Rolland s'achève sur le bruit des canons qui annoncent le début de la Première Guerre mondiale. Nous sommes à la dixième et dernière partie de l'ouvrage, intitulée « La nouvelle journée ». Et je vous cède la parole, cher Hervé, pour évoquer l'extraordinaire lucidité de Romain Rolland.
L'incendie qui couvait dans la forêt d'Europe commençait à flamber. On avait beau l'éteindre ici, plus loin il se rallumait. Avec des tourbillons de fumée et une pluie d'étincelles, il sautait d'un point à l'autre et brûlait les broussailles sèches. À l'Orient, déjà, des combats d'avant-garde préludaient à la Grande Guerre des Nations. L'Europe entière, l'Europe hier encore sceptique et apathique, comme un bois mort, était la proie du feu. Le désir de combat possédait toutes les âmes. À tout instant, la guerre était sur le point d'éclater. Le monde se sentait à la merci d'un hasard qui déchaînerait la mêlée. Il attendait. Sur les plus pacifiques pesait le sentiment de la nécessité, et des idéologues célébraient dans la guerre le plus beau titre de noblesse de l'homme. C'était donc à cela que devait aboutir la résurrection physique et morale des peuples d'Occident. C'était à ces boucheries que les précipitaient les courants d'action et de foi passionnés. Seul un génie napoléonien eût pu fixer à cette course aveugle un but prévu et choisi. Mais de génie d'action, il n'y en avait nulle part en Europe. On eût dit que le monde eût pour le gouverner fait choix des plus médiocres. La force de l'esprit humain était ailleurs. Alors il ne restait plus qu'à s'en remettre à la pente qui vous entraîne. Ainsi faisaient les gouvernants et les gouvernés. L'Europe offrait l'aspect d'une vaste veillée d'armes.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia, avec à la technique Stéphane Desmonts, a été préparée par Estelle Gap, Leïla Kourousselikoua, Perrine Malinge et Claire Tesser. Un grand merci à vous, Hervé Pierre, pour votre belle complicité. En attendant le plaisir de vous revoir sur scène en mai, dans la prochaine création de Pascal Rambert, Une vie au Théâtre du Vieux Colombier. Un spectacle qui rendra hommage à la radio et au mystère des voix. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une seconde émission consacrée à Romain Rolland, mais cette fois-ci à sa correspondance avec un autre grand écrivain, Stéphane Zweig. Bonne soirée et à la semaine prochaine.